France Musique. Musicopolis. François-Joseph Gossec, une ascension sous les lumières. Les réputations ont la vie dure. Celle de Gossec, par exemple. En 1789 et les années qui ont suivi, il a eu un rôle très important dans le paysage musical français. De quoi faire des jaloux et lui créer quelques ennemis. Puis, sous le consulat et l'empire, il est tombé en désamour, brutalement passé de mode. Et soudain, on ne l'a plus joué. Pourtant, avant cela, il avait gravi avec succès les marches de la reconnaissance. Tenez, en 1780, par exemple, un article qui lui était consacré se terminait par ces mots « Monsieur Gossec est sans contredit à la tête de nos meilleurs compositeurs et mérite autant les éloges des connaisseurs que l'estime des honnêtes gens ». Faisons donc aujourd'hui connaissance avec le Gossec de l'Ascension. La publication de cette symphonie, qui fait partie de l'opus 3 de François-Joseph Gossec, date de 1756. Il a alors 22 ans. Voici 3 ans qu'il a des œuvres publiées. Ses opus 1 et 2 étaient des pièces de musique de chambre, des trios et duos. Et à présent, ce sont ses premières symphonies. Ça n'a l'air de rien vu d'aujourd'hui, mais la symphonie est alors un genre très moderne. Les premières sont arrivées, voici une vingtaine d'années seulement, d'Italie et d'Allemagne. Gossec s'est tout de suite mis au goût du jour. Lorsque Gossec publie ses 6 symphonies opus 3, voici 5 ans qu'il est arrivé à Paris. Il a tout de suite impressionné Rameau, pour qui il avait une lettre de recommandation. Et Rameau l'a fait engager comme violoniste dans l'orchestre du fermier général La Pouplinière. On dit que cet orchestre est alors excellent, quasiment du niveau de celui du concert spirituel. Gossec a fait ses études à Anvers, à la maîtrise de la cathédrale. Il aurait sans doute pu choisir, pour faire carrière, une autre destination. Mais Paris est à cette époque la plus grande capitale en matière d'exécution musicale et d'édition. Les musiciens, interprètes et compositeurs y affluent de toute l'Europe et la ville est alors exceptionnellement animée et cosmopolite. François-Joseph Gossec vient du Hainaut, où il est né en 1734. Son premier biographe raconte que sa famille était très pauvre et que le garçon a commencé par garder les vaches sur les terrains communaux. Mais il avait reçu du ciel cette flamme secrète qui, malgré les obstacles, fait éclore le talent. Le garçon est inspiré par la nature, par le chant des oiseaux, le bruit de la pluie sur les feuilles des arbres. Il chante d'une jolie voix au milieu des prés, il invente des airs et il s'accompagne avec des instruments qu'il fabrique lui-même, notamment une espèce de violon fait dans un sabot. Bref, vous imaginez que cet instinct musical ne passe pas inaperçu. De bonnes âmes s'intéressent à lui. On le fait chanter à l'église de son village, puis on l'envoie à Anvers, donc à la cathédrale. Et peut-être trouve-t-il là, dit son biographe, quelques vieils artistes allemands de la descendance de Händel ferrés sur le contrepoint et la fugue. Ses progrès sont tels que ses bonnes âmes l'envoient à Paris. Gossec commence comme violoniste dans l'orchestre du fermier général La Pouplinière. Et en 1754, c'est Johann Stamitz qui en est le chef. Stamitz vient de Mannheim et il est l'un des meilleurs violonistes et chefs d'orchestre de l'époque. Il a déjà fait de l'orchestre de Mannheim le plus réputé de son temps. Réputé pour sa précision, pour son ensemble, pour sa capacité à rendre toutes les nuances, du pianissimo le plus ténu au fortissimo le plus sonore. Et enfin pour sa manière d'exécuter le crescendo qu'on lui envie dans toute l'Europe. À Paris, Stamitz a apporté aussi sa musique, musique d'orchestre et musique de chambre. Quelque chose de très nouveau. Alors qu'à cette époque, on entend dans la capitale surtout des ouvertures et des danses extraites des vieux opéras de Lully ou de Rameau. Une nouveauté donc, qui a de quoi plaire au jeune Gossec de 20 ans, qui va en faire son miel. Lors du départ de Johann Stamitz, qui retourne à Mannheim, Gossec devient le chef de l'orchestre de La Pouplinière et il commence à faire entendre ses propres symphonies. Cette nouvelle musique instrumentale commence à entrer dans les mœurs. Gossec est à l'affût de toutes les nouveautés. Il profite de l'afflux à Paris de musiciens qui pratiquent les instruments avant, venus d'Allemagne et de Bohême, pour varier ses orchestrations. Par exemple, il va être l'un des premiers en France à introduire des parties de clarinette dans ses symphonies. Chez Monsieur de la Pouplinière, Gossec dirige les concerts en semaine à Paris et le dimanche dans sa résidence de Passy, surtout le dimanche des œuvres religieuses. Ce n'est pourtant pas son mécène qui lui demande de composer une messe des morts en 1760. Il la compose sans aucune commande. Le jeune compositeur de 26 ans fait exécuter cette nouvelle œuvre à l'église Saint-Roch, rue Saint-Honoré. Les auditeurs sont stupéfaits. Thank you. En 1829, Fétis, le musicologue, publie une note dans sa revue musicale sur l'introduction des instruments à vent dans la musique française. En 1762, écrit-il, Monsieur Gossec donna pour la première fois sa messe des morts où il fit connaître l'effet des trombones dans un orchestre de 200 musiciens. Ces instruments inconnus et cette réunion de 200 artistes d'élite étaient alors une double nouveauté pour Paris. Dans les deux strophes, Tuba Mirum et Mors Stupebit, on fut effrayé de l'effet terrible et sinistre de trois trombones réunis à quatre clarinettes, quatre trompettes, quatre cors et huit bassons cachés dans l'éloignement et dans un endroit élevé de l'église pour annoncer le jugement dernier, pendant que l'orchestre exprimait la frayeur par un frémissement sourd de tous les instruments à cordes. La messe des morts va fonder encore davantage à Paris la réputation de François-Joseph Gossec. Lorsqu'il se trouve au chômage, après la mort de son patron La Pouplinière, il est engagé par le prince de Condé à Chantilly pour alimenter son théâtre personnel. Gossec s'essaye donc à l'opéra comique, à la mode, et quelques-uns de ses ouvrages connaissent le succès. En 1769, il fonde un nouvel orchestre qu'il appelle le Concert des amateurs. Celui-ci est bientôt considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. Il est soutenu par des mécènes et aussi par des souscriptions ouvertes au public. Gossec commande de nouvelles œuvres. Il est le premier à faire jouer des symphonies de Haydn. Il invite des virtuoses à se produire. Et bien sûr, il fait entendre parfois ses propres symphonies. L'ascension de Gossec se poursuit dans les années 1770 à Paris. En 73, il laisse la direction de son concert des amateurs au Chevalier de Saint-Georges pour prendre la direction du concert spirituel avec deux compères, Simon Leduc et Pierre Gavignès, tous deux comme lui, violonistes et compositeurs. L'orchestre, qui végétait un peu, se relève et reprend du poil de la bête sous leur direction. La même année, notre musicien fait représenter Sabinus, sa première tragédie lyrique à Versailles. En février 1974, l'ouvrage est donné à l'Opéra, avec un petit succès, malheureusement aussitôt éclipsé par la création d'Iphigénie en Aulide de Gluck, qui fait fureur au mois d'avril. Néanmoins, Gossec est engagé comme maître de chant dans la grande maison de l'Académie royale de musique, maître de chant puis chef d'orchestre. En 1782, il fait représenter Thésée, sa deuxième tragédie lyrique. En 1784, Gossec fonde l'École royale de chant, embryon du futur conservatoire qui naîtra pendant la Révolution. L'École de chant dispense des cours de solfège et de vocalisation, mais également des cours d'harmonie et de contrepoint, discipline que Gossec enseigne lui-même. Ainsi, grâce à lui, le niveau des artistes qui seront ensuite engagés dans les divers théâtres lyriques augmente-t-il sensiblement. Et c'est là que nous allons quitter notre Gossec, en 1789, à 55 ans, tandis que, selon l'un de ses premiers biographes, partout, à la cour, à la ville, au théâtre comme à l'église, l'enfant du Hainaut s'était fait des amis qu'il devait à son caractère doux, bienveillant, à sa gaieté, à la grâce et à l'amabilité de son esprit.
Oh,
l'air de Médée au quatrième acte de Thésée de François-Joseph Gossec, Véronique Jean, soprano avec les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Antoine Viossa pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.